Bonjour Fabrice Drouel, bonjour à tous. Aujourd'hui, un personnage singulier qui a intrigué tous ses contemporains au siècle des Lumières. Était-il un homme ou une femme, le chevalier d'Eon? De toutes les femmes travesties dont parle l'histoire, c'est la plus étonnante, car elle s'est distinguée à la fois dans les armes, la politique et la littérature. Bachaumont. D'histoire. Pour le mémorialiste français du XVIIIe siècle, Louis de Bachaumont, l'affaire était entendue, le chevalier d'Eon était une chevalière. Mais depuis 200 ans, on se pose encore la question, et le sexe du chevalier d'Eon suscite autant de curiosité que celui des anges. Était-il un homme ou une femme? Même la médecine s'est posé la question, en donnant son nom à une pathologie, l'éonisme, qui est une tendance qu'ont certains hommes à se déguiser en femme. Mais pour le chevalier d'Eon, ce fut aussi le moyen de se rendre célèbre, lorsqu'un jour à Versailles, en 1755, il était venu à la cour de Louis XV assister à un bal.
Le 3 juillet cette année-là, le roi offrit un bal resté fameux qu'il avait voulu noir et blanc. Toutes les femmes étaient en blanc, tous les hommes étaient en noir. Ce fut une comédie libertine et galante qui pourrait être intitulée La méprise amoureuse.
Et si je vous disais que je suis le chevalier d'Eon?
Oh.
Quoi?
Je ne vous croirais pas.
Et pour quelle raison?
Parce que je suis précisément le chevalier d'Eon.
Quoi? Ses épaules nues sont...
Louise, Auguste, André, avec un E, dit-on, et Timothée, c'est-à-dire que sur 6 prénoms, 3 étaient féminins. Fernand de Gontier.
Oui, mais ces prénoms ont été féminisés au moment où le roi Louis XVI lui a ordonné de porter l'habit de femme,
oui,
qui était l'habit de sa naissance, disait-on. Mais jusqu'à cette époque, Déon a eu une vie qui était une vie... qu'il a vécu au masculin. Il est né en...
Vous rappelez aussi d'ailleurs, pour ce qui concerne la féminisation des prénoms, ça se porte encore aujourd'hui,
oui,
il est courant que l'on donne
un prénom féminin. C'est ça, tout à fait courant qu'on donne un prénom féminin, qui est le prénom d'une marraine, c'est tout à fait courant. Mais lui avait un prénom féminin, qui était Geneviève. Maintenant, Louise et André ont été féminisés beaucoup plus tard.
En tout cas, pendant les premières années de sa vie, vous le dites, il n'y a aucune ambiguïté. C'est un garçon, il ne joue pas à la poupée. Et d'ailleurs, il préfère nettement les armes. C'était un très grand escrimeur.
C'était un très grand escrimeur et il aimait beaucoup le sabre. Ce qui n'est pas du tout...
Pardon, soldat.
Si, puisque vous souhaitez confier cette mission à un homme, et si seule une femme doit approcher l'impératrice, le chevalier peut vous servir.
Voilà la lettre que vous remettrez en main propre à l'impératrice. Je vous confie un peu de l'avenir de la France. Quels que soient les détours où vous serez obligés, ne l'oubliez pas. Vous partirez demain.
C'était un extrait du film Le secret du chevalier d'Eon de Jacqueline Audry, un film qui a pour parti pris de considérer que le chevalier d'Eon était une femme.
Hein. Oui.
Mais cela dit, quand il part en Russie, on a souvent dit, je crois qu'il a lui-même écrit, Fernand de Gontier, il est parti déguisé en femme comme lectrice de l'impératrice Elisabeth.
Oui, pour s'approcher de l'impératrice, pour devenir sa confidente, il est parti habillé en femme et on dit qu'il a été la lectrice d'Elisabeth. Sa mission secrète était de porter, comme on vient de l'entendre dans cet extrait du film, de porter des lettres.
Toujours son grade de capitaine des dragons. Cela dit, très vite, il devient ou redevient diplomate, et même un peu plus. Louis XV l'envoie en Angleterre, l'Angleterre qui vient, avec laquelle la France vient de signer le traité de Paris, la fin de la guerre de 7 ans. Alors, il n'envoie pas vraiment le chevalier d'Eon comme diplomate, mais c'était une couverture. Il était ministre plénipotentiaire, mais en fait, il devait avoir des activités très secrètes. Il faut rappeler, vous le rappelez, Fernand de Gontier, Louis XV attachait une très grande importance au service secret.
Oui, puisqu'il avait créé ce secret, ou qui était une politique parallèle, disons, à la politique des affaires étrangères. Par exemple, vous parlez du traité de Paris à la fin de la guerre de 7 ans. Il n'était pas Louis XV. C'est à ce moment-là qu'il a créé le secret, parce qu'il n'était pas du tout content des conclusions du traité, et en particulier
il faut rappeler que la France perdait l'essentiel de ses colonies.
Et en particulier Dunkerque devait être démantelé.
Il a entretenu cette légende,
cette ambiguïté. Pourquoi ça, je ne sais pas, parce que je ne suis pas dans la tête du chevalier d'Eon. Je ne sais pas pourquoi à ce moment-là il a entretenu cette ambiguïté qui apparemment lui servait à pénétrer dans des milieux, et à, parce qu'il était quand même, il faisait toujours partie du secret du roi, donc il pouvait peut-être avoir des informations de ce, comme ça. Je ne sais pas pourquoi il a entretenu cette ambiguïté, mais il est certain qu'il l'a entretenu, puisqu'il a dit un jour à quelqu'un qui le connaissait, lui disant, enfin, vous êtes capitaine des dragons, je vous ai connu sur les champs de bataille, vous n'êtes pas... Ah, il a dit, si, je suis une femme. Mon père, quand j'étais enfant, m'a déclaré comme homme, m'a fait élever comme un homme, mais je suis une femme.
Et il a fait élever son père parce que c'était une question d'héritage. C'est ce que dit en tout cas le chevalier d'Eon.
C'est ce qu'il dit, qui ne tient pas debout, parce qu'il avait des frères, donc papier. Et ça va être l'enjeu qui va... vous rentrerez enfin... en France, habillé en femme, vous garderez alors votre pension, parce qu'il y avait une question de pension.
Oui, il avait besoin d'argent.
Il avait besoin d'argent. Vous garderez votre pension. Si vous acceptez d'être femme, de rentrer en France en tant que femme, et de nous rendre tous les papiers secrets que vous avez.
Alors évidemment, parmi eux, il y en avait des embarrassants. C'était tout simplement les plans de débarquement en Angleterre, je suppose. Alors il est quand même très exigeant, il veut de l'argent, vous le dites. Il veut être réintégré dans son titre de ministre plénipotentiaire. Il a une arme redoutable, ces fameux plans d'invasion. Bref, c'est quand même une transaction très longue qui s'engage des deux côtés de la Manche, entre Louis XVI et le chevalier d'Eon. Le chevalier d'Eon, auquel Louis XVI va envoyer... un agent secret chevronné, plus connu d'ailleurs aujourd'hui pour ses pièces de théâtre que pour ses activités d'espion, tout simplement l'auteur du Barbier de Séville, qui arrive à Londres sous un... C'est un extrait du très bon film d'Edouard Molinaro, Beaumarchais l'insolent, Beaumarchais dont on se souvient pas nécessairement qu'il était aussi un espion et pas seulement l'auteur du Barbier de Séville.
Ah oui, c'était un espion brillant d'ailleurs.
Comme Lucchini, qui joue son rôle.
Absolument.
Mais bon, alors un espion qui arrive avec cette mission bien précise, qui consistait à faire revenir le chevalier d'Eon, qui ne se laisse pas faire, qui a beaucoup d'exigences.
Il a d'énormes exigences. Il veut qu'on lui donne l'équivalent à peu près de 10 millions de francs actuels. Il veut rentrer en France avec la possibilité... Il veut bien qu'on l'appelle Mademoiselle d'Eon, à condition qu'il puisse garder son costume de dragon. Il veut être... Alors, la négociation va durer presque 2 ans. Les négociations sont très longues. Et une fois qu'il a accepté, qu'il a dit « Oui, j'accepte, je suis la chevalière d'Eon », Beaumarchais va commencer à faire... à Londres, à lancer des histoires, à dire que la chevalière d'Eon est follement amoureuse de lui, qu'ils vont se marier peut-être, et surtout, car Beaumarchais était très gros joueur, il va jouer sur le sexe de Mademoiselle d'Eon, sachant que le roi va officiellement proclamé que c'est femme. Alors il va mettre une somme absolument énorme, et c'est là que d'Eon va se fâcher avec Beaumarchais en lui disant que il ne veut rien avoir avec ces questions de Paris, et à partir de là ils vont être ennemis.
Alors le chevalier d'Eon va finir par rentrer en France, et là il est plutôt bien accueilli.
Oui, le chevalier d'Eon sera très très bien accueilli en France,
elle va céder aux exigences du roi,
mais n'a jamais rendu tous les papiers. Il l'a gardé, il a laissé des papiers à Londres. Donc il va rentrer en France, et il va tout de même sans arrêt exigé de porter son costume de dragon en disant, vous savez, moi ça fait 50 ans que je...
Alors là, c'est extraordinaire parce que toutes les dernières années de sa vie, ça va être la défense des femmes, la lutte contre l'oppression des femmes, c'est assez extraordinaire.
Ah oui, oui, il va devenir, mais vraiment, une féministe. Elle va se définir comme d'abord la pucelle d'Orléans, il va se définir comme la pucelle de Tonnerre, dire que la sexualité pour lui n'a aucune importance, et que le homme ou femme, il ne voit aucune différence, puisque, alors il va élever le débat en disant, puisque les sexes, les anges n'ont pas de sexe, à part la reproduction, homme ou femme, on ne devrait faire aucune différence.
C'est ce que disait Saint Paul d'ailleurs.
Saint Paul qu'il va citer d'ailleurs.
Alors c'est quand même pathétique la fin du Chevalier d'Eon parce que il va vivre dans la misère. La révolution éclate. D'ailleurs il est plutôt pour la révolution, mais celle-ci lui supprime sa pension. Et puis il vit un peu d'expédient. Il continue de faire de l'escrime, mais pour s'exhiber, pour gagner des shillings. Il va même être blé. Chevalier Chibani, Emmanuel Fournier, Claire Destacan et Franck Olivard. Une réalisation de Anne Kobilac.